Adrien, est-ce que tu pourrais un peu te présenter jusqu'à aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que t'es devenu? Qui es-tu? C'est quoi ton...
Oui, donc pour me présenter, voilà, résumer tout ça, c'est compliqué, mais c'est un long chemin, je trouve, jusque maintenant. Parce que j'ai 35 ans maintenant. Mais sinon, c'est vrai que j'ai vécu dans une famille avec beaucoup de frères et sœurs, 5 sœurs, 2 frères, avec la particularité d'être 4 adoptés, 4 biologiques. Mais moi, j'étais le premier adopté, c'est peut-être ça qui était particulier pour moi. J'étais le tout premier. Mais après, ça s'est assez vite enchaîné. Après moi, je crois que 2 ans après, j'ai eu un frère qui arrivait. Et à chaque fois, il y a une naissance qui arrive en même temps, presque en fait. Une adoption, une naissance, plus ou moins dans la même année. Parce que moi, quand je suis arrivé, ma sœur Hélène venait de naître. Puis après, il y a eu Maxime. Et je crois qu'après, il y a eu Rose et Jean en même temps qu'une autre naissance, ouais. La naissance de Claire. Donc vraiment, notre famille est en expansion, quoi, en très très peu de temps. Voilà. C'est ça qui a. Ça n'a pas été facile à absorber au fond. Mais. Donc, on a une famille qui a grandi très très vite. C'est un peu la particularité. Donc, ça se ressent parce que quand on a vécu beaucoup de frères et sœurs, je crois qu'on a peut-être une vision différente, peut-être du monde. En tout cas, on a pris partage, ça c'est sûr. Peut-être dans la douleur, chacun. Mais. Donc voilà, moi je suis l'aîné des garçons et après j'ai juste une sœur plus âgée que moi et les autres sont plus jeunes que moi. Mon parcours.
T'as été adopté où?
Je vais à Rwanda, donc à Kigali. Là-bas, j'étais dans un orphelinat. Et je suis arrivé en Belgique à plus ou moins 3-4 ans, c'est pas très clair. Hein, il était obligé à 4 ans. Je suis arrivé en 91, ici en Belgique. Donc quand je suis arrivé, j'avais 2 sœurs, et puis après ça a grandi très vite. je suis rentré à l'école maternelle. Je crois que je suis de suite rentré je sais plus si j'étais en deuxième ou troisième, tout de suite. Je crois que j'étais en troisième maternelle, assez vite, puis hop, primaire. Dans une petite école de village, c'était près d'Aubel, près de R. Précisément, c'est Saint-Jean-Sart, c'est où ma maman enseigne toujours d'ailleurs. Donc j'ai fait toutes mes primaires là, sauf la sixième primaire. Et j'ai eu la particularité d'avoir maman comme enseignante pendant ma première, deuxième, troisième, quatrième primaire. Donc
j'ai
4 ans comme enseignante. Donc.
La maison, l'école.
Voilà. Moi, il ne me manquait pas. Mais voilà, c'est, je pense qu'au moment où on le vit, c'est pas toujours facile. Parce que c'est dur de faire la séparation entre maman et l'enseignante. Hein. On développe une certaine jalousie par rapport aux. Aux autres élèves, parce qu'on a l'impression que notre maman appartient à tout le monde, hein. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, plus le fait d'être adopté, je pense que c'était peut-être ça. Pas ça. J'étais un enfant difficile, il faut être honnête. J'ai un parcours d'enfant difficile jusqu'à 12-13 ans, ça peut calmer. Donc, j'ai fait mes primaires à Saint-Jean-Sart. Je fais ma dernière année à Bruyères, donc à Herve, tout près de chez mes parents, parce que c'était un peu compliqué dans l'école. Après, j'étais en secondaire. J'aimais pas trop l'école, ça je m'en souviens. Parce qu'après, j'ai fait mes secondaires à Herve. Puis j'ai étudié comme prof de gym à Liège. Donc 3 ans, je suis devenu prof de gym. Mais j'ai pas eu un parcours très linéaire dans le sens où en sortant des études de prof de gym, il n'y a pas tellement de place dans ce monde-là. Donc du coup, j'ai un peu fait tout. En fait, je me rappelle, je fais des intérims dans tous les domaines. Hein. Ça allait de la dératisation à je travaillais dans un Colruyt où j'ai travaillé pendant un an. Et puis après, j'étais maître nageur, je crois, pendant un an à IY, à la piscine communale d'IY, où je donnais les animations en même temps pour les écoles, aquagym, aquafitness, aquabike et tout ça. Et un peu de psychomote. Après, c'était un contrat d'un an. Alors après, là, je suis revenu dans l'enseignement pendant quelques années, où j'ai vraiment fait 10 000 écoles, hein, surtout l'île, je pense. Parce que j'ai 4 écoles par semaine, c'était particulier. Mais puis à un moment, j'en ai eu un peu assez. Parce que j'avais déjà derrière la tête de faire policier, même en sortant des secondaires, mais c'était peut-être un peu tôt déjà pour le faire. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais passer les tests. Je crois que c'était après 6 ou 7 ans dans l'enseignement, je me suis dit, bon, je vais passer les tests de police. Donc, que j'ai réussi. Et donc, du coup, coup, je suis à la police depuis, quand, en fait, 2015, je suis rentré en formation. 2016, j'ai fait la formation et donc depuis 2016, je suis à la police. Et dernièrement, ici, depuis 2020 ou 2021, je dois calculer, j'ai repris des études à l'ULB comme en criminologie. Parce que voilà, c'était la période Covid, c'était l'occasion de se lancer dans quelque chose. Parce que ouais. Je pense que socialement, c'était un peu fermé, on va dire ça comme ça. Donc, autant se lancer dans quelque chose. Donc ici, bah, je termine en fait. Je fais tout mon mémoire et j'aurais fini la criminologie. Sans doute, je te porte. Après, je vais voir ce que j'en ferai. Mm. Donc voilà, ça c'est plutôt au niveau parcours professionnel, on va dire. Professionnel, mais sinon, pour le reste, c'est vrai que j'ai eu un... Parcours assez, je dis toujours instable, mais assez. Je sais pas si c'est le bon mot instable. Mmh. Je me suis cherché un peu comme tout le monde, j'ai l'impression au final, mais voilà, avec la particularité d'être un enfant adopté, ça c'est sûr, mais. Et avec une recherche identitaire qui a vraiment explosé en 2012, je vais dire ça comme ça.
Mais est-ce qu'à la maison et tout ça, c'était quelque chose de. On parlait de ton adoption. Il y avait une transparence par rapport à ce sujet à la maison?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux types de familles. Hein. Il y a les familles où on va être peut-être de manière excessive dans la recherche par rapport aux origines, au pays, tout ça. Et un peu l'autre extrême où, voilà, et, on a adopté, c'est un fait, mais maintenant on va de l'avant. Maintenant, avec du recul, je comprends mieux pourquoi ça a été fait, parce que c'était une question de nous aider pour l'intégration, parce que c'était peut-être ça aussi qui... que mes parents ont toujours eu à cœur, c'est qu'on soit assez vite intégré dans la société. Alors, avec la petite erreur de mettre de côté nos origines, nos parents biologiques, au fond, de façon indirecte. Donc,
Oui, c'est ça. L'autre identité, en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Le passé, l'autre identité et l'histoire qui est marquée, quoi.
Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que pendant beaucoup d'années, beaucoup d'enfants adoptés diront on va vivre en pensant qu'on est blanc, pour un peu caricaturer. C'est un peu ça comme ça.
Oui, je crois que c'est pas une caricature.
Mais ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire, comme tout enfant, on veut être aimé par ses parents, on veut ressembler à ses parents, je veux dire, c'est normal, je veux dire ça comme ça. Je trouve pas qu'il y a quelque chose de spécialement malsain là-dedans, mais ça devient si à un moment donné on n'arrive pas à se réapproprier son identité. Mmh. Ça, et donc à un moment donné, ça arrive. Il y a des gens pour qui c'est progressif et d'autres pour qui c'est violent. Moi, ça a été mon cas. C'était plutôt une explosion, mais qui couvait depuis très longtemps.
Oui.
Donc.
Est-ce que c'est pas mis sous cloche?
Oui.
Tout le temps. Enfin, je veux dire, on le ressent à l'intérieur, non? Ça existe.
Voilà.
Ce qui devient plus supportable, c'est le fait de se dire. Ça n'existe pas. Avec un moment, tu fais, en fait, je n'y arrive même plus.
C'est surtout le masque qu'on a mis et qui, au final, nous donne l'impression de ne plus savoir qui on est du tout, en fait.
Ouais.
Et donc, par rapport aux décisions de vie et toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on est instable. Parce qu'on ne sait vraiment pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime. En fait, je vais avouer, c'est en 2012, tout d'un coup, j'ai pu me dire, voilà, ça, c'est ma couleur préférée, ça, j'aime ça, avant ça, j'avais. Je m'adaptais à tout, en fait c'est un avantage, on dirait ça comme ça, mais je m'adaptais à tout, mais au final quand on s'adapte à tout, à tout le monde, on ne s'y retrouve plus du tout. Quoi.
Oui, et puis est-ce que c'est s'adapter par volonté ou c'est s'adapter inconsciemment parce que en fait on est dans un truc encore d'intégration et encore de survie et que le comme tu veux, c'est ça qui me permet encore d'être dans une forme de... Tu vois ce que je veux dire?
J'allais le dire, c'est une question de survie en fait. Parce que quand on analyse avec du. Allez, maintenant, j'ai envie de dire que je suis après l'explosion, donc je sais mieux analyser, mais c'est une question de survie. Et je fais le parallèle avec tout enfant en fait. C'est ça qui m'a permis d'aller mieux, de relativiser un peu plus par rapport à l'adoption, en regardant les parcours de mes sœurs à la maison biologique, qui n'ont pas qu'un parcours bien sûr différent comme tout le monde, mais on remarque les mêmes recherches, on va dire ça comme ça. Donc. Voilà, je pense que se sentir intégré par rapport à la société, se sentir intégré dans la famille aussi.
Est-ce que le fait d'avoir grandi avec trois autres adoptés et du Rwanda et du Burundi a a permis de créer encore des liens beaucoup plus forts avec cette personne, parce que, enfin, par exemple, moi, ce qui m'a quand même fait beaucoup de tort, triple, enfin tout ça, c'est l'arrachement, double arrachement, l'arrachement du pays, et aussi après l'arrachement avec Rose et Jean, et me retrouver dans une ville où je suis la seule noire. Et donc, du coup, seule et avec aucun repère. Est-ce que ces personnes adoptées, donc, et ça, vous le saviez, vous connaissez ces mots, dire « Ah, ben en fait, je partage, je me reconnais. » Est-ce que c'est une sensation et un ressenti que tu as pu avoir ? Dire « Ah, je ne suis pas toute... Je suis seule dans mon histoire. » Mais...
Dans la manière dont on a été éduqué, pas spécialement. Parce qu'on a toujours fait en sorte, et comme je le dis, je le comprends mieux maintenant, de ne pas faire un cas particulier de notre parcours, on va dire. Donc, on était 8, mais voilà, on ne faisait pas attention à se dire qu'il y en a 4 qui sont adoptés, 4 biologiques. Honnêtement, on ne le ressentait pas trop, et c'est une bonne chose. Maintenant, avec du recul, on se dit, malheureusement, des fois, faire des différences, ce n'est pas une mauvaise chose, d'une certaine manière. Donc, se sentir moins seul, peut-être inconsciemment, mais consciemment non, parce que mes frères et sœurs adoptés, bah, c'est pareil que mes autres frères et sœurs. Quoi. Donc moi, je même encore aujourd'hui, je ne fais pas vraiment de séparation. Parce que...
Mais quand je dis ça, ce n'est pas une question de séparation, c'est quelque chose de dire, ces êtres humains partagent quelque chose de similaire. Bien on sûr, a ce dénominateur commun.
C'est
et du coup...
plus tard que ça arrivait.
Ah, ok, voilà. D'accord.
C'est quand je suis devenu plus âgé, que j'ai quitté la maison et que... Parce que c'est normal, parce qu'il y a toujours cette crainte de faire un entre... Comment dire, un entre-soi. Quand on était à la maison, donc, parce que sinon, alors, il y aurait une séparation entre adoptés et entre biologiques.
C'est ça.
Et ça n'a jamais été le souhait de qui que ce soit de la famille, donc... Je pense que tant qu'on vit à la maison, c'est quelque chose que... Donc du coup, se sentir moins seul, pas spécialement à cette époque-là en tout cas. Donc, ouais. J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais...
Mais non, et puis c'est difficile à mettre des mots aussi sur le fait de dire aussi, bon, est-ce que chacun et chacune devait aussi avancer avec ce mot-là, avec... Donc, je comprends, et c'est aussi une question de dire, ben, ça reste de la survie aussi au sein de la famille et individuelle, et que moi je racontais le fait que à totalement une autre échelle, mais qu'il y avait une femme dans l'école où j'ai étudié, conservatoire à Mons, et c'était la seule femme noire comme moi, elle est arrivée 3 ans plus tard, et en fait on était courtoise, mais on s'est absolument pas parlé ou reconnu, parce que en fait elle me renvoyait tout ce que je fuyais de moi aussi, enfin dire je veux pas que ce soit un sujet maintenant, et maintenant c'est un sujet toutes les deux dans notre travail, enfin voilà. Mais donc je comprends,
et c'est tout à fait ça en fait, je comprends. C'est vrai que jusqu'à un certain âge, quand je croisais quelqu'un de couleur, c'était... Je ne me sentais pas proche de cette personne-là du tout, en fait. Donc, parce que je dis toujours, jusqu'à mes 25 ans, j'étais persuadé que j'étais blanc, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, même à mes parents. Parce que on s'est tellement identifié, et encore bien, à nos parents adoptifs, leur dire que on oublie totalement ce point-là. Mais maintenant, on l'oublie, on va dire, consciemment, mais dans la conscience, ça reste. Tout ou tard, un jour, ça ressort.
Oui, c'est ça, parce que du coup, ça conclut que ce n'est pas un rapport sain, parce que c'est essayer d'entasser et de fuir cette autre identité qu'à un moment, elle nous rattrape. Et que coup, c'est... Je crois que c'est ça, c'est avec la maturité aussi qu'on comprend que les deux peuvent coexister, les deux doivent coexister. Il y a quelque chose comme ça où moi j'ai toujours l'impression de me dire, ben, il y a cette identité imposée et il y a toujours celle qui est collée à ma peau et à mon histoire et qui m'appartient pas, vu que ça appartient à d'où je viens et que tu fais. Mais en fait, ici, depuis que je suis ici, j'essaye de gommer ça, mais mais qu'est-ce qui fait que je ne me sens toujours pas entièrement dans cette identité imposée et que m'appartient pleinement et qu'il y a toujours des résidus de l'autre. Et en fait, c'est juste de me dire, ben, essayer de fuir cette double identité, ben, en fait, fera toujours que je n'arriverai pas à rentrer dans l'autre et, parce que les deux doivent coexister, tu vois. C'est comme si j'étais dans un sas. Mm-hmm. Dans un sas et il y a deux portes et en fait, il y a des aimants de toutes parts et j'arrive jamais à rentrer dans l'une ou l'autre porte, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au moment de la transition, je vais dire ça comme ça,
ouais.
Il y a une époque où on, enfin, en tout cas de ma part, on rejette totalement notre identité qu'on a construite ici, on va dire, parce qu'on se dit tout d'un coup, je veux revenir à qui je suis vraiment. Et donc, c'est un moment comme une explosion, parce que c'est, mais pour moi, c'est un passage obligé, je considère, où on se dit, mais oui, mais attends, moi, je suis pas né ici. J'ai un passé, j'ai des parents biologiques qui sont probablement pas en vie, mais je veux retourner là. Et alors, c'est comme pour tout, au début, c'est de manière excessive, donc en voulant totalement effacer ce qu'on a construit. Et puis après, il faut quelques années pour, comme tu dis, pour faire cohabiter les deux identités, parce que tout ce qu'on a construit ici est intéressant aussi, et nous complète, donc on peut pas faire ça.
Et quand tu disais que t'étais un enfant turbulent ou difficile, est-ce que aujourd'hui, avec le recul et l'homme que tu es de 35 ans, tu serais dire qu'est-ce que ressentait ce petit garçon qui était ou cet enfant
C'est-à-dire que
qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que
ouais, c'est beaucoup de souffrance, je pense, de toute façon, et cette impression de ne pas être entendu, mais en même temps. C'est ça le paradoxe, sans poser les questions et en rejetant. Donc, c'était demander d'être entendu, en même temps, je rejetais. Donc, c'était ça, la complication, même si, voilà, avec du recul, je sais que c'est pas mal, en fait. Mais oui, je souffrais de me dire. Comment dire ça ? Du deuil impossible. Et ça, c'est une chose que maintenant, je vis mieux parce que je me suis dit, c'est quelque chose que, voilà, je vivrai toute ma vie avec. Et c'est comme ça, mais je pense que quand on arrive petit, on arrive déjà avec le deuil pas fait des parents biologiques, et on a en plus l'arrachement culturel, et très vite on doit s'adapter, et pas un seul instant on nous permet de manière imagée, de nous recueillir sur ce qu'on a perdu avant, parce qu'on change de nom, on change de pays. On perd notre identité, notre nationalité,
je trouve la langue.
La langue aussi, parce que l'adoption plein air, pour ça, je trouve qu'elle a un côté violent, parce que c'est pour ça que l'adoption simple, voilà, on garde plus de choses, mais l'adoption plein air, on perd tout, en fait.
On perd tout, et puis surtout, pour moi, c'est vraiment quelque chose que les structures d'adoption doivent re-questionner.
Ouais.
Et j'ai pu avoir une discussion avec une des structures d'adoption que j'ai rencontrées, en disant, mais vous vous rendez compte qu'en fait, l'adoption plénière est d'une manière très, très transparente dans un mensonge, en fait. Dans un mensonge à la fois pour les adoptants et à la fois pour l'enfant. Parce que c'est ça, l'adoption plénière, c'est comme si que l'enfant était biologique, comme si qu'il sortait du ventre. Mais ça, c'est un leurre qui, pour moi, est très... c'est comme ça que je le décris, mais très néfaste et très toxique, dans le sens que ça ne permet pas non plus à être pleinement dans quelque chose qui est tu as ton histoire et tu n'es pas une page blanche et comment on construit une autre page ensemble, quoi.
Et surtout, ça conditionne la manière de se comporter des parents qui adoptent, en fait.
Sûr.
Donc déjà, rien que cette base-là est complexe.
C'est vraiment quelque chose à revoir, quoi.
Mmh.
Et oui, c'est ça, en fait, tout doit aller tellement très très vite, et c'est d'où la question de la survie, que tu dis, mais en fait, on m'a même pas laissé le temps de réaliser ce qui m'arrive. Et que, pour moi, c'est une chose tellement violente que du jour au lendemain, on te dit, c'est ça.
Voilà. Alors que, quand on arrive, on est des enfants en deuil, en fait. Et personne ne le voit vraiment.
Ouais.
Tout ce qu'on va voir, ça va se traduire par beaucoup de violence. Moi, j'étais fort violent quand j'étais jeune, ou bien... j'ai envie de dire, mes parents, je crois que chaque matin ils se levaient, ils savaient pas ce que j'allais faire comme bêtise. Donc c'était un appel à l'aide. Mais parce que tout simplement, et je le vois maintenant quand je vois d'autres enfants adoptés, même même sans ça, j'ai envie de dire que certains enfants sont en deuil, mais que personne ne le voit vraiment et ne leur permet de concrétiser. Quoi. On doit faire beaucoup, beaucoup plus tard.
Ouais.
Avec la particularité que ça a un deuil un peu impossible, parce que je compare ça au fait d'une famille qui perdrait quelqu'un, mais dont, qui ne voit jamais le corps, on va dire ça comme ça. Donc on doit faire le deuil avec aucun support, on va dire ça comme ça.
C'est ça.
Donc,
mais il y a des écrits et tout ça qui racontent que c'est ça les fantômes, en fait. Les fantômes, c'est est-ce que c'est nos morts, enfin ce sont nos morts, en fait, à qui on n'a pas donné une place de manière concrète, enfin, et que moi en tout cas, je fais ce travail qui est parti de cette motivation là c'était de me dire, mes morts me hantent depuis que je suis ici, depuis que j'étais à Moucron à 7 ans, tout le temps. Et en fait, je me dis, mais comment ils peuvent plus me hanter comme ça, mais qu'ils existent. Et du coup, c'est comme ça que pour moi, ce travail était de base. Ma première motivation, c'était de donner une place à mes morts et de leur donner une sépulture. Et que c'est donc toute la symbolique, en fait, du deuil, et on ne parle pas que des morts, mais du deuil de l'histoire, de ton histoire. Mmh. Et que ça, c'est fondamental, en fait. Enfin, c'est tous les psys, neurologues vont dire, c'est fondamental de donner une place à ton histoire à un moment donné. Et que je crois qu'enfant, on a tellement de violence qu'on ne sait qu'elle nous dépasse. Mmh. Et que moi, par exemple, j'étais à l'inverse de toi. J'étais le rayon de soleil. J'étais que dans de l'amour et dans une quête pas très clean non plus. Enfin, va. Mais comment, en fait, on a tellement peur de se dire, bon, de toute façon, si j'étais abandonnée une fois, enfin, si j'ai vécu ça, enfin, peut-être. Puis je vais revivre ça. Il y a
ça,
tout.
Parce
tu que, vois,
il y a. Parce que toute sa vie, on a l'impression que si on a été abandonné une fois, quoi qu'il arrive, ça va se refaire. Et donc, on vit en permanence en disant, bah, c'est quand le prochain abandon. Et on l'attend, et alors, il bah, y a beaucoup de gens qui le créent. Donc, ça, je sais que je le crée quelques fois. Donc, Mais c'est vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en permanence en se disant, bah, c'est quand le prochain déménagement, au fond, parce que le prochain déracinement, parce que la particularité que j'ai eue, moi, quand j'ai été adopté, donc j'étais dans un orphelinat, et puis pendant quelques jours, j'étais chez une dame qui faisait la transition, donc c'était au Rwanda, et puis après, j'ai pris l'avion, je pense que c'est ma seule, puis pour arriver en Belgique. Mais ce qui est particulier, c'est une des rares périodes de ma vie d'avant dont je me souviens, cette période chez cette dame-là, parce que, au premier moment, je m'étais dit, ben voilà, en guillemets, de manière caricaturale, je suis sauvé. Mais après ça, il y a encore eu un changement. Et donc après ça, je peux pas croire à la permanence des choses, j'ai toujours dit. Et c'est ça qui est compliqué d'un point de vue psychologique. Bah, je suis partie de ceux qui ne croient pas à la permanence des choses. Donc, ils croient quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Maintenant, ça se gère aussi. Hein. Mais,
je m'y retrouve totalement dans ce ressenti-là. Et il y a un truc à nos âges aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on peut avoir ce choix-là. Mais jusqu'à ce qu'on peut maîtriser, parce qu'on met des lunettes aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cette sensation de me dire, moi, je suis pas attachée aux choses. Enfin, il y a quelque chose comme ça où je suis pas attachée aux choses et que limite tout peut être dans un sac parce que je suis prête à partir. Maintenant, j'ai une famille et tout ça. Il y a autre chose qui, voilà, ça, je crois que. Mais pendant très très longtemps, et jusqu'à ce que je commence à cette quête identitaire, il y avait vraiment quelque chose où je me dis, ma maison, ça peut être n'importe où, en fait.
Même peut-être en termes de relations, j'appartiens à personne.
Donc, ouais, après... Après, j'avais un truc comme ça où j'avais tellement peur d'être abandonnée ou tellement dans une quête d'amour que j'étais en surquête. Enfin,
ah oui,
et que du coup, il y a quelque chose comme ça.
C'est
où...
moi,
c'est... Ouais, c'est marrant, en fait. Parce que, et du coup, moi, j'aime trop les gens. Enfin, il y a quelque chose comme ça où j'aime trop les gens. Parce que je crois qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui s'est construit en moi. C'est avec la thérapie et tout ça. c'est qu'on posait beaucoup de questions sur mais elle est où ta colère en fait. Et je dis toujours que moi je crois en la bonté de l'homme, parce que si je crois pas en la bonté de l'homme, ben en fait je vais remettre en question ceux qui ont fait cette guerre, ceux qui ont tué ma famille, et que ça ça me fait effondrer et ça enlève tout le mythe que je me crée pour survivre quoi. Et mais qu'en fait aussi c'est ouais les gens, j'ai besoin qu'ils m'aiment, et je sais pas rentrer en conflit avec les gens, parce que justement il y a ce truc de me dire ben si je crée une relation là et tout ça, ben ouais je crois que c'est ça qui me nourrit en fait. C'est les autres. Mais la question de la maison, j'en ai pas, et c'est pour ça que tout ce travail pour moi c'est créer ma maison intérieure. Et je suis sûre qu'un jour, je trouverai vraiment une maison matérielle qui sera OK.
Je comprends, c'est intéressant, parce que c'est... Évidemment, on se voit plus différemment. C'est presque l'inverse, en fait, chez moi. Où j'ai appris à avoir besoin vraiment d'un endroit à moi. Genre, vraiment une forteresse comme ça. Donc, là-bas, c'est surtout dans les bois. J'ai toujours été manger dans les bois.
Ah oui.
Et seul, ouais. Ça, j'aime beaucoup, parce que... Je ne sais pas expliquer, c'est une connexion comme ça aussi, mais ça fait peut-être partie du passé, j'ai peut-être été pendant une partie. Donc, c'est des choses après coup qu'on se dit, pour avoir cette fascination par rapport au bois, ça va peut-être venir de là.
Ah, c'est... Et j'ai un rapport totalement inverse de toi, de la forêt et des bois. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est mon leitmotiv, hein, je travaille là-dessus, parce que la guerre s'est passée pour moi dans la forêt.
Voilà, tout dépend du vécu.
Ouais, j'ai erré pendant des jours dans la forêt, puis le fait de rencontrer ma grande sœur Alice qui me portait sur son dos, enfin, et qu'elle, elle vient avec les détails de cette histoire-là et tout. Et donc, mon rapport que j'ai à la pluie, à des odeurs, tout ça, bah, c'est lié à la forêt en fait. Ah. Et c'est vrai que moi, je vais pas spontanément me promener dans la forêt, jamais j'irai faire un camping dans la forêt. Enfin, c'est hors de question quoi. Mais l'errance, ouais.
C'est intéressant, c'est l'errance, parce que moi, c'est vraiment l'endroit le plus rassurant qui soit, pour moi, les bois. C'est vraiment quelque chose de. Maintenant, voilà, je sais pas exactement, je veux dire, je me souviens pas exactement de ce que j'ai pu vivre par rapport à ça. Donc, je suppose que ça se rapporte au passé, quoi. Donc, mais ça s'est mis assez vite, hein. Sans comprendre pourquoi. Ce besoin d'aller, genre, une fois semaine, voire deux, si je savais.
Ah ouais.
Donc, maintenant, pour moi, mais. Donc ouais, c'est par rapport au bois, enfin ou à la nature, je ne sais même pas. Parce que j'ai la nature, mais c'est les bois. Et certains bois bien particuliers, je ne sais pas pourquoi, c'est plus vers le canton de l'Est, je dis toujours, et il y a des bois qui m'intéressent moins, et je ne sais pas pourquoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les bois, en général, c'est les bois où il y a eu la guerre, justement. Donc, je me dis que ce n'est pas par hasard non plus.
Non, mais ce n'est pas par hasard que tous les deux, on parle de ça.
Ouais.
Mais... Comment tu raconterais ? Est-ce que c'est une question d'odeur, de marcher, la sensation de marcher
C'est le fait d'être caché, je pense. C'est ça qui est particulier chez moi. J'ai besoin d'être caché, ça veut dire pouvoir être soi-même. Mais le fait d'être anonyme aussi. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé vivre dans des villes où je ne connais personne. Parce que y a quelque chose de tellement agréable et rassurant de... Mais je pense que c'est du fait que quand on est avec quatre couleurs, bah, tout le monde nous notifie un petit peu. Je veux dire, j'ai vécu à la campagne, et donc la campagne, bah, voilà, on ne rate pas, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, j'ai vraiment développé ce côté, j'adore l'anonymat, j'adore... parce que je suis quelqu'un qui est en société à une certaine aisance, ça c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais une fois que c'est fini, je dois aller dans mes bois, de façon de parler. Voilà, j'ai toujours besoin de cet endroit pour me recharger. Donc, comme je dis, ce côté... Ouais, ce côté... Parce que, c'est comme je dis, quand je marche dans les bois, je croise des gens, mais des gens que je connais pas, et j'adore ça, parce que voilà, il y a un sourire ou quelque chose comme ça, mais...
Tu aimes aller dans les bois seul ?
Oui, ça j'ai toujours fait.
C'est quelque chose à toi ? Ça t'appartient, en fait ?
Bon, maintenant, je vais aussi avec ma copine, ça pose pas de souci d'aller avec, mais voilà, c'est différent. Ouais, j'ai besoin d'aller seul aussi, t'as... c'est très important. Mais je crois que ça peut... Tout le monde trouve un peu sa manière de se retrouver. Donc moi, pour moi, c'est les bois. C'est l'endroit où je décante tout ce qui a pu se passer dans la semaine, des choses comme ça. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose en plus, c'est que je me sens vraiment en sécurité là-bas. Voilà, je crois ça, c'est... Il n'y a pas d'autre. Parce que pour moi, les voix, c'est une personne. C'est quelque chose pour moi. C'est quelque chose de rassurant. Donc, je ne saurais pas mieux l'expliquer que ça.
Non, je trouve ça... Je trouve ça très, très beau parce que... Les deux rapports sont tellement extrêmes que je trouve ça très, très beau.
Enfin... Ce qui me vient à l'esprit, c'est que les voix, en fait, ne changent pas. En fait. Parce qu'ils changent en fonction des saisons et tout ça, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours là. Et c'est peut-être ça aussi, en fait, que je vais chercher une forme de permanence. Chose à laquelle j'ai du mal à croire. Mais les voix, en fait, quoi qu'il arrive, ce sera toujours là. C'est pour ça, quand il y a des gros changements, par exemple, il y a certains pans entiers des voix qui sont rasés, bah, j'ai beaucoup de mal. Mais je pense que c'est ça, réfléchissant. C'est ce côté. Voilà, ça fait des années que je vais dans les mêmes voix, enfin, j'en connais des dizaines et des dizaines de voix, mais ils sont toujours là. Et voilà, je pense que c'est ça. Voilà, enfin, en tout cas, une des choses que je cherchais.
Et ça, les voix, tu as rencontré les voix, enfin, cette sensation de bien-être, c'est arrivé tôt dans ta vie?
De façon consciente, non. Parce que c'est vrai que j'ai une famille où on marche énormément. Et on marche dans les bois, à la campagne. Donc, je ne peux pas détacher de ça. J'étais initié, je veux dire, par mes parents, ça c'est vrai. Mais il se passait rien de spécial à cette époque-là. Je crois que ça a commencé, comme je dis plus ou moins, vers mes 25 ans, ou même un peu avant. Mais je crois que je ne savais pas pourquoi je le faisais. Je me souviens quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'allais tout le temps dans les bois. Et je comprenais pas trop. Mais à 25 ans, j'ai toujours, c'est l'âge où j'ai récupéré mes sensations, on va dire ça comme ça, où j'ai commencé à ressentir les choses. Et c'est pour ça que c'est très très violent. Ça peut donner une petite dépression au début. Et parce que quand on a vécu pendant des années sans vraiment ressentir les choses, bah, le jour où ça arrive, parce qu'il n'y a pas eu de transition, c'était dog. Et ça, c'était compliqué à apprivoiser. Je dis toujours, il a fallu 7 ans, un mois après.
Et du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a eu un élément, un événement déclencheur du fait de dire... Enfin, je vois totalement, parce qu'à un moment, quand tu dis... Il y a un jour, tu te lèves et tu dis... Ah ouais, bah là, ça, c'est aujourd'hui, quoi. Il s'est passé quelque chose ou tu...
Oui. C'est-à-dire, l'événement déclencheur, c'était quand j'étais, c'est pas anodin, face à l'engagement. Donc j'étais en couple et je devais me marier. Et j'ai pris la décision très très tard d'annuler le mariage. Mais c'était un long chemin avant que je prenne la décision finale. Et c'est pendant cette période-là qui a été, comme je dis, c'était le déclencheur. Parce que je pense qu'à cette époque-là, moi je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais, pourquoi je le faisais. C'est plus tard que j'ai compris. Et malheureusement, je veux dire, les dommages collatéraux, c'était ça, l'annulation de mariage et toutes ces choses-là. Mais ça faisait déjà un an ou deux que ça commençait, qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais que je pouvais apercevoir, mais je ne savais pas que ça allait jusque-là, ça c'est sûr. Et donc le côté déclencheur, j'ai toujours, c'est quand j'étais face à l'engagement. C'est là que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et à ce moment-là, je m'étais dit, mais je ne me retrouve pas. Et donc j'ai rejeté ça très violemment en me disant non, m'engager, je ne peux pas, même déjà, moi, le lendemain matin, je ne sais pas comment ce sera. Donc je pense que c'est ça ce qui a vraiment déclenché. Parce que je sais que tôt ou tard, ça allait arriver. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours dit que ça va arriver.
Bah, tu le sentais ?
Sous quelle forme, je ne savais pas du tout. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé chez moi. Le fait de me dire, bah, normalement, voilà, je dois m'engager, parce que pour moi, m'engager, ça voulait dire bah, croire à quelque chose de permanent. Et vu que j'y croyais pas, c'était très complexe. Et donc il y avait vraiment un conflit à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Comment croire quelque chose qui vient de l'extérieur si c'est déjà compliqué de croire aussi en une vérité intérieure et qu'on la qu'on soupçonne pas. Je comprends.
C'est aussi le moment de mon parcours de vie ou des décisions que je prenais qui ne m'appartenaient pas vraiment. Et je crois que tout d'un coup, il y a eu... une prise de conscience en me disant mais c'est pas vraiment ce que je veux en fait à ce moment-là, en tout cas pas maintenant, et je pense que j'en suis sûr, psychologiquement j'étais pas prêt pour tout ça. Je crois que j'ai eu conscience d'un coup que j'avais besoin d'un développement beaucoup plus long que là. Et donc à cette époque-là, je me souviens, j'ai commencé à aller chez Uti, et la première séance où j'étais, je me suis dit j'ai dit clairement je suis là pour des années, parce que je pense que c'est à point que je me suis dit je ne saurais pas y arriver seul. Donc à cette époque-là, et c'était très nouveau pour moi, parce que j'ai toujours pensé je gère tout va bien. Et voilà, et là je m'étais dit, seul je ne saurais pas. et ça va prendre beaucoup de temps. Et le fait que j'ai accepté ça dès le début,
ouais,
ça va prendre beaucoup de temps et j'ai besoin d'être aidé, bah, je crois que ça va conditionner la suite.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est courageux et c'est beau aussi d'être face à dire bah ouais, là je m'engage dans quelque chose, mais en même temps, c'est même pas un choix. Là, à ce moment-là, c'était plus un choix.
J'ai pas eu le choix.
En fait,
parce que quand on en parle de temps en temps, on dit waouh, tout le monde ne fait pas ce choix-là d'aller plus vers soi-même, on va dire ça comme ça. Bah, en fait, c'était soit ça, soit la mort cérébrale d'une certaine manière. J'ai pas eu le choix. Et heureusement. Donc après, ce qui est bien, une fois que le processus est enclenché, on va dans cette direction-là, en fait, quoi qu'il arrive.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est tellement... Tu te dis, j'ai 25 ans, c'est tellement énorme. Par où commencer ? Enfin, même au-delà de parler à quelqu'un, c'est vraiment à soi-même dire à moi-même, mais par où je commence, en fait ?
Ouais. Ouais.
Par où je commence, dans le sens que t'as tellement mis du vernis, tellement dit, ouais, mais... qu'en fait, tu dis, mais c'est quoi la pureté, en fait ? L'essence même du ressenti, de ce sentiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
C'est ça. Ouais.
Tu dis, par où je commence aussi avec moi, en fait ?
Ah, vraiment, c'est ça, avec soi, et puis avec les relations avec la famille, avec les autres. Parce que là, c'était le plus gros tri qui soit par rapport aux amitiés, j'ai recommencé vraiment à zéro, complètement. Et c'est logique, c'est-à-dire que la personne que j'étais à cette époque-là ne correspond tellement plus. C'est pas enfin. Si, je veux dire, les bases étaient déjà là, ça c'est sûr, mais ma manière de me comporter ou bien d'aborder la vie, plus du tout la même. Donc, je veux dire, les relations n'auraient pas su rester parce que ces personnes-là me voyaient comme j'étais avant.
Bien sûr.
Et donc, ne pouvaient pas suivre.
Ouais, et puis ça fait aussi très très peur aux gens de cette transformation et aussi de dire, les amis peut-être qu'on a au moment où on n'a pas envie de voir ça.
Ouais.
Se disent, mais en fait, je suis pas...
Mais je pense que moi, j'ai rejeté moi-même très vite.
Ouais.
Les gens du passé, je vais dire ça comme ça, dans le sens où je pense qu'ils m'énervaient très fort parce qu'ils me voyaient comme j'avais pas envie de me voir, en fait.
Mmh.
Et donc, pour moi, ils ne me voyaient pas vraiment. Et donc, ça m'a... Ils minimisaient très fort ma personne, on va dire ça comme ça. C'est le sentiment que j'avais, en tout cas. Et donc, parce que j'avais l'impression que je voulais être mieux, on va dire ça comme ça. Enfin, mieux, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, moi-même... Donc oui, je pense que c'est naturel. Je crois que... Mais je fais un parallèle avec le passage, je veux dire, de l'adolescence à l'âge adulte, en fait. Quand je regarde un peu tout le monde doit un peu faire cette démarche en disant, bah voilà, à mesure que je deviens moi-même, les relations, bah voilà, il y a un tri qui se fait naturellement.
Bien sûr, bien sûr.
Donc c'est juste que moi, il a été un peu plus violent parce que c'était une nécessité, c'était pas clair.
Oui, mais de toute façon, tu sentais que qu'il n'y avait plus de concessions, en fait.
Ouais.
Enfin... et ça, je trouve que c'est respect et c'est hyper courageux aussi. Et aussi se dire, je ne peux plus perdre de temps à justifier ce chemin et que tu fais, mais en fait, voilà. Et après, moi, j'ai la chance aussi de travailler dans un milieu artistique ou aussi ça peut être... Enfin, je peux être aussi entourée de personnes qui peuvent, mais après, en même temps, bah, moi, je me dis toujours... Je vais faire ce trajet-là toute seule, mais parce qu'en fait, il n'y a personne de mon entourage se reconnaît dans ce que je... Enfin, moi, en tout cas, j'avais personne qui avait vécu l'histoire que j'avais vécue, pas des personnes racisées. Enfin, voilà, tout un contexte qui fait... Ben, moi, j'ai jamais eu de copains noirs, j'ai jamais eu de potes parce que je fuyais ça. Mais en même temps, tu dis, bah, ta place ne sera pas à cet endroit-là. Mais,
de toute façon, personne d'autre va le faire à notre place.
Non.
C'est vrai que peut-être être en contact avec des personnes qui ont vécu une histoire assez proche, ça peut aider, mais moi, de mon côté, j'ai vraiment fait les choses tout seul. C'est peut-être ça la particularité. Enfin, tout seul, j'ai envie de dire, en étant accompagné, bien sûr, par un psychologue. Mais après, le reste, c'est je compare ça à une longue traversée du désert, quand j'y repense. C'était très long. Et j'ai accepté d'être seul pendant très longtemps. Pendant quand même ces années, de ne pas vraiment être en couple, des choses comme ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est que ici, peut-être depuis 2-3 ans, maintenant que je suis plus rentré dans le processus d'être en couple et de dire que je suis capable, parce que jusque 2012 à 2019, je considérais que c'était pas possible.
Mais en fait, tu as... C'est assez incroyable, parce que ça veut dire que tu t'es dit, en fait, je vais me rendre disponible à 150%, à 1000%, à moi, et consacrer tout ce temps à dire, en fait, toute autre chose autour n'existe plus ou aura pas l'importance que je donne à ce que je fais là, aujourd'hui.
Je pense que j'ai dû me dire à cette époque-là, je dois me réparer avant toute chose. Parce que tant que je ne suis pas en guillemets réparé, je ne saurais pas établir des relations saines. Donc, pour moi, ça n'avait pas spécialement d'intérêt d'en créer, parce que j'en ai l'une ou l'autre, mais c'était pas, c'était, elle était biaisée d'avance. Donc, je crois vraiment consciemment, je me suis dit, je ne me suis pas dit sur combien d'années ça va être, mais j'ai accepté cette traversée du désert et aussi le fait d'apprendre à vivre seul. C'était la plus grande chose à faire, parce que moi, je suis passé d'une famille de beaucoup d'enfants à tout de suite en ménage. Et donc, quand je me suis séparé la première fois, je me suis trouvé seul. Et c'est marrant, je dis toujours cette anecdote-là, c'est la première fois que je me suis dit que j'étais seul avec moi-même. Et je me dis, c'est vraiment particulier, parce que c'est la première fois que je m'observais en me disant, je suis seul avec moi-même. C'était vraiment très particulier au début, c'était très, très, très douloureux. Mais je voulais à tout prix savoir vivre avec moi-même, en fait. Et donc, j'étais à un point extrême que je ne voulais pas avoir d'animaux de compagnie, je ne voulais pas. Maintenant, j'en ai pas, parce que j'ai jamais voulu compenser. Parce que je me dis, si je trouve un certain confort dans une autre relation avec un animal ou quoi que ce soit, ça va peut-être ralentir ce que j'entreprends. Maintenant, je le dis, je sais bien l'expliquer maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi réellement je faisais ces choses-là, mais ils font sens maintenant. Et donc, je me suis vraiment imposé une certaine discipline, je crois, à me reconstruire complètement, dans le sens où j'ai commencé à faire ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai appris la musique, enfin, on a tous appris la musique dans la famille, et je m'étais dit, oh, je veux jouer dans un groupe de musique. Et pendant beaucoup d'années, j'ai laissé tomber ça, et donc, à partir d'un certain temps, tout doucement, je me suis mis à faire ça. La musique, et puis peut-être le support, comme ça, je veux dire, ça peut tout le monde, mais certaines choses, enfin, la musique d'un point de vue artistique, et que ça m'appartienne, en fait, parce que j'ai appris l'académie de musique, mais voilà, la manière dont j'ai appris, je pense que ça n'importe comment, on trouve ça un peu rébarbatif, on va dire, et il n'y a pas de créativité. Alors que, j'ai envie de dire, à partir de 25 ans, j'ai commencé à découvrir que j'étais créatif. Avant ça, je ne le savais pas du tout. Et donc, ça me tombait dessus, et je ne savais pas quoi en faire du tout, et donc j'avais besoin de l'exploiter. Donc j'avais beaucoup de choses à explorer avant de revenir dans la vie réelle, en fait, je pense. Parce que pendant ces années-là, j'étais vraiment dans le désert, d'une certaine manière. Je n'ai pas d'autre image. Parce que c'était assez conscient que je me coupais, enfin je ne me suis pas coupé les gens, mais je voulais restaurer tout en fait en moi et restaurer les relations. J'ai dû restaurer les relations avec ma famille aussi, parce que évidemment c'est conflictuel quand on entreprend ce chemin-là, et après le tout a été de réussir à que ce soit moins conflictuel, quoi, mais maintenant, comme je l'ai dit, quand j'observe les enfants biologiques, ils font le même chemin aussi, parce que je pense que quand on est à la maison, voilà, on a une certaine image de nous, mais après, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses aussi, donc oui. Ça, mais comme je dis, ce qui est bien maintenant, c'est qu'au début, il a fallu que ce soit vraiment actif, que je le fasse activement. Maintenant, je suis quelqu'un de plus zen, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je fais ça automatiquement. Parce que je dis, maintenant, voilà, je sais que ce sera toute la vie, mais j'ai les clés, chose que j'avais pas avant du tout. Non, j'ai les clés pour évoluer, et je me suis même dit ces derniers temps, allez, ça fait maintenant, moi je considère que ça fait peut-être 2-3 ans, ou un peu plus, 19, allez, 4 ans, que je suis quelqu'un de relativement stabilisé et d'heureux surtout. Ça c'est particulier. En 2019, je me suis vraiment dit, c'est vraiment l'année où je me suis dit, je suis quelqu'un d'heureux. Et je me suis dit, c'était rigolo parce que je le disais à tout le monde. Toute personne que je croisais, je disais, je suis heureux. Je me disais, mais pourquoi? Et des fois, il y a même des vidéos de moi où je dis ça, où dès que j'avais un peu plus, j'ai toujours la même chose, et je dis, mais maintenant, je suis heureux. Et j'ai dit, et après, pourquoi? J'en sais rien, parce que c'était tout le travail derrière. Et depuis cette époque-là, j'ai toujours dit, je sais que je vais l'être de manière autonome. Parce que je me suis donné les bases pour, et dans l'évolution que j'ai menée jusqu'à maintenant, pour être heureux peu importe les circonstances. Alors qu'avant, les événements m'affectaient beaucoup plus. Maintenant, j'accepte qui m'affecte, en fait. C'est pour ça qu'il est différent. J'accepte de me laisser traverser par les événements. Alors qu'avant, je résistais le plus possible. Alors que maintenant, avec l'acceptation, j'ai rien inventé de nouveau. c'est beaucoup plus simple.
Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable cette force et cette radicalité de dire c'est moi et c'est ma rencontre et personne t'enlèvera ça. Et c'est incroyable parce que je me dis non, mais j'ai pas cette discipline. Enfin, après, toute personne fonctionne d'une. Moi, je crois que il y a beaucoup de choses et tout ça, et que je crois que faire ça seul, ça serait impossible pour moi.
Tout dépend de la personnalité et la nécessité du moment, je pense.
C'est ça.
Moi, j'étais à un moment où j'avais tellement reporté qu'il y avait beaucoup à travailler, on va dire ça comme ça. Donc, j'avais pas le choix. Vraiment pas le choix.
Et en fait, c'est ce que tu dégages, c'est une sérénité, enfin, maintenant. Mmh. Et ça, je trouve que c'est... Quelle que soit la manière que tu entreprends ce chemin et ce long voyage, moi qui suis en plein dedans, te voir toi qui as fait ce chemin quelques années auparavant, quand même ça me... C'est pour ça que je fais ça, en fait, avant de partir, c'est que ça me renvoie... enfin voilà, je suis un peu émue, mais ça me donne de la force de voir... cette force que tu dégages. Voilà.
Moi, c'est heureux. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on va dire de nouveau, quand j'avais 25 ans, de façon très brusque, j'ai eu envie de retourner dans mon pays. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais vraiment, je dis, je veux retourner. Mais le truc, c'est que, intelligemment, on va dire, mais sans le savoir, je ne l'ai pas fait à cette époque-là. J'ai attendu 7 ans avant d'y retourner.
Et donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, je vais maintenant, c'est mon chemin de ma réparation. Et que du coup, c'est là vraiment que le Rwanda a commencé à t'habiter. Et tu t'es dit, oui. Et bizarrement, ça ne s'est pas dit, vas-y, j'y vais dans 6 mois. Bon, ce qui était peu probable, mais que ça s'est passé 7 ans après.
Oui, parce que je crois que je ne savais pas grand-chose sur mon état, mais je savais à quel point j'étais fragile. Donc... À cette époque-là, je savais que c'était un souhait, je voulais vraiment y aller, mais je me suis dit, je ne suis pas prêt pour ce que je vais rencontrer, je ne suis pas prêt à confronter tout ce que j'idéalise, et donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, j'ai dû me dire ça. Et donc, j'ai laissé passer beaucoup d'années avant de me dire, là maintenant, je ne sais pas si je me suis dit que j'étais prêt, mais en tout cas, suffisamment pour que ça ne fasse pas trop de dégâts, parce que j'ai pas conscience que de temps en temps, retourner dans ce pays d'origine, ça peut faire beaucoup de dégâts si on n'est pas prêt à revenir ça. Parce que c'est la réalité. On rencontre la réalité et alors il y a tous nos souvenirs. Mais enfin, souvenirs, c'est complexe parce que j'ai toujours nos souvenirs, c'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne sait pas trop si c'est de l'ordre du rêve ou du souvenir. Parce qu'en avançant, on oublie, mais on embellit. Donc c'est un peu ça le souci.
Oui, c'est ça, c'est une transformation.
Voilà,
mais pour moi, ce qui reste pur et c'est pas avec les mots, c'est l'ordre des sens.
Voilà, ça c'est sûr. Voilà.
Et que du coup, d'où la nécessité que moi par exemple je ressens le besoin d'y retourner pour la séparer peut-être tous ces sens là. Tu vois. Et
ça c'est l'étape vraiment obligée.
Ouais.
Et qui s'impose à nous, je pense ça. Ça
pose vraiment. Mais oui. Et du coup, tu parlais de préparation, c'est sûr. Je suis en plein dedans, mais aussi, là aussi, je me dis, par où commencer? C'est quoi la préparation? Est-ce que c'est lit? Enfin, je sais pas, en fait. Enfin, tu vois, je dis que je prépare, que je rends visible ma préparation, mais au final, je me dis, c'est quoi? Là, je suis pleinement en PLS par rapport à ça. C'est loin.
Souvent, l'année où on va retourner, c'est la pire année. Alors, pour moi, c'est l'année où on redevient un peu... Enfin, moi, personnellement, c'est l'année où je commence à redevenir un peu instable. Je ne sais plus ce que je voulais, des choses comme ça. Je me souviens, alors que ça s'est bien passé, je vais m'expliquer après. Mais, et donc, pour se préparer, moi, je considère que c'est indirect. C'est pas en se disant, voilà, je vais regarder. Parce que moi, honnêtement, pendant toutes ces années, ces temps... C'est vrai que j'ai commencé à regarder des documentaires et tout ça. En fait, j'ai sauté du cocaïne, mais en fait, je me suis dit, je dois y retourner. Parce que, à chaque fois que j'entendais parler du Rwanda, ou bien que j'entendais je pense que simplement que quelqu'un d'autre prononce le nom, ça me mettait dans une colère terrible, en fait. Une colère, une tristesse terrible, mais les deux en même temps. Et je ne savais pas gérer, c'était terrible. J'ai l'impression que j'en faisais un genre de stress post-traumatique. Et donc, à un moment donné, je te dis, je vais retourner parce que je ne peux pas avoir ces sentiments-là indéfiniment. Et donc, je crois que la base pourquoi je voulais retourner, c'est que à chaque fois, ça crée quelque chose de très, très, très violent en moi. Et donc, j'ai commencé à regarder quelques émissions, ça n'a pas été facile. Mais je devais m'intéresser à l'histoire un peu mieux parce que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas vraiment fait. En guillemets, je n'avais pas spécialement été encouragé, je veux dire, par rapport à ça. Même si je considère que c'est quelque chose d'autonome aussi, on doit le faire quand on se sent capable de le faire, donc oui, ça c'est vrai. Et donc me préparer, je crois que ça a été plus par rapport à ma personnalité que par rapport directement au fait de partir. Donc je crois que c'est toute cette traversée du désert qui m'a préparé à aller, parce que comme je dis, j'avais regardé quelques émissions, je ne sais pas beaucoup. Moi j'ai vraiment été en guillemets sans préparation à proprement parler, quand je suis parti là-bas. J'étais comme ça. J'ai pris les billets d'avion et je me dis, voilà, j'irai à Kigali, à cet hôtel-là, mais c'est tout. Vraiment, et c'est ce que je voulais, ce côté genre sac à dos, puis voilà. Mmh. Et j'ai eu une ou deux relations que j'avais l'occasion de voir via ma soeur Rose et encore via d'autres amis qui avaient des gens sur place. Donc il y a deux relations que j'ai pu avoir sur place là-bas, mais à la base, c'était pas mon but. Je voulais vraiment y aller de manière, de nouveau, cet aspect anonyme, genre comme ça, comme un sac à dos. Et oui, c'est ça, vraiment pour capturer l'essence, en fait. Je voulais sans rien, vraiment y aller comme ça. Parce que je voulais que rien ne puisse altérer ce que je devais ressentir là-bas. Parce que je me dis, je vais là-bas, je vais vraiment ressentir tout ce que j'ai ressenti ici. Ça doit être très dur. Voilà, il faut que je le vive. C'est pour ça que je voulais pas aller avec quelqu'un. Je voulais tout seul parce que je m'étais dit, avec quelqu'un, bah, en tout cas, moi, de mon point de vue, ça allait diminuer, en fait. Je n'allais peut-être pas me permettre de ressentir certaines choses. Donc, c'était... Même si, avec du recul, je me rends compte que la manière dont j'ai fait les choses, je pense que j'étais très dur avec moi-même, en disant, voilà, je veux faire à fond, je veux ressentir les choses, et personne ne va me sauver. Parce que c'est vrai que chez moi, c'est ça qu'on peut ressentir aussi, c'est que j'ai vraiment développé ce côté que, quoi qu'il arrive, personne ne va me sauver, je dois faire les choses tout seul. Et c'est ça, ce côté dur que j'ai des fois un peu, parce que des fois je voudrais poser aux gens, même si j'aime aider les gens et tout ça, mais des fois je crois, avec du recul maintenant, je crois que quand je parle aux gens, j'ai tendance à dire, mais tout se trouve chez toi, personne ne va t'aider, au fond, je ne sais pas comment utiliser ça. Donc, et je crois que c'est en. Je crois que c'est en regard du fait que, si je dois caricaturer, j'ai toujours cette impression d'avoir. Je vais imaginer. D'avoir cet enfant en moi qui attend toujours d'être sauvé, en fait. Et toute ma vie, je sais que, voilà, maintenant j'ai vu mieux avec, mais ce petit enfant à l'orphelinat qui attend qu'on vienne le sauver, en fait. Et alors, des gens pensent que l'adoption nous a sauvés, elle nous a sauvés matériellement parlant, si on veut, et tout ça, mais non. Non, ça ne nous a pas sauvés.
Mais non, mais c'est tout le concept du sauveur et du mythe du sauveur. C'est aussi prétendre que la richesse est d'une certaine manière. Enfin, voilà. Mais que, de toute façon, je crois qu'en tant qu'adulte, il y a un moment donné où il faut expliquer et raconter à notre enfant intérieur tout ce qui lui s'est passé. Enfin,
c'est vraiment ça, parce que quand je suis retourné, je me suis vraiment dit, et ça consciemment, j'ai même écrit, parce que pour le moment, j'écrivais quand même beaucoup pour moi-même, de toute façon.
Bien sûr.
Que je devais retourner au pays là-bas pour rencontrer cet enfant intérieur et le rassurer, lui dire, bah voilà, je ne te rejette pas, je suis toujours là. C'est vraiment ça que je me suis dit quand je suis retourné. Je me suis dit, il faut que je le rencontre et avoir un dialogue avec lui. Et je ne pouvais pas le faire ici, donc je crois que c'est ça la démarche à la base, vraiment aller rencontrer cet enfant intérieur. Je pense que tout le monde a son enfant intérieur, mais il y a des gens qui sont condamnés à vraiment le sentir toute leur vie.
Ah oui, et moi je crois que c'est ça qui m'habite vraiment. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette sensation de... à l'aéroport, il y a toujours... mon enfant est resté à l'aéroport, moi. Mmh. Et qu'il y a quelque chose comme ça, que du coup j'ai aussi un rapport avec l'aéroport, ben, surtout Zaventem du coup, assez particulier, parce que j'ai toujours il y a cette petite fille avec qui m'attend, qui erre, quoi. Oh. Et que Elle est déjà venue avec moi au Rwanda. Mmh. Et là, mais elle reste toujours à l'aéroport, quoi. Mmh. Et qu'il y a quelque chose comme ça où retourner, pour moi, c'est retourner avec elle et qu'elle grandisse, en fait.
C'est ça.
Parce que c'est aussi, c'est ça qui coupe un peu cette dissociation qui existe, mmh. qui existe depuis trop longtemps, entre cet enfant qui a arrêté de grandir parce que par le traumatisme et cet arrachement, et ce corps visible que j'ai, qui grandit, mais qui est toujours habité. Mais comment cet enfant sort et est à côté de moi? Et en fait, cet enfant, c'est aussi toute la symbolique de l'histoire, de la peur, et du traumatisme, et des morts. Comment le spectacle, tout le travail qui s'appelle Ichirori, en Kirundi, ça veut dire ça. C'est comme un miroir et la souffrance intérieure pour pouvoir vivre avec. Comment tout ça, la réparation, comment on met tout ça à côté pour pouvoir avancer? Parce que ça sera toujours à côté de moi. Mmh. Mais c'est une grande différence si ce n'est plus à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça qui est gangrène et qui est néfaste et toxique. C'est qu'on se tue à petit feu, en fait. Mmh. Et il y a vraiment quelque chose comme ça où tu dis, mais je suis dans un suicide, en fait. Voilà, et maintenant, j'ai un peu... j'ai envie d'autre chose, quoi. Et aussi, pour considérer cette identité, cette histoire-là, parce que c'est pas que triste. Enfin, on nous renvoie que c'est... Enfin, j'ai l'impression que... Aussi, le fait que c'est dur de dire adoption, il y a un endroit aussi... je sais pas. Je pouvais ressentir ça, qu'il y avait un endroit comme ça d'échec, où je ne suis pas vraiment l'enfant d'eux, où je ne viens pas vraiment de là. Comme si, qu'en fait, un peu un déchet comme ça. Et... Et du coup, comment tu empowerment aussi ce vécu-là, et tu dis, ben, j'ai vécu ça, et c'est OK, en fait.
Ben, je pense que ça va mieux. Je crois que je l'ai déjà dit, à partir de quand on ne fait plus un cas particulier de son vécu. Ça ne veut pas dire le minimiser, mais c'est quand j'ai commencé à regarder autour de moi. Parce que quand j'ai commencé à regarder aussi mes sœurs biologiques... Et je me suis dit, c'est vrai que ça n'a pas facile, ça n'a pas été facile à l'adoption, évidemment, mais des fois, je me dis, il y a une part qu'on oublie toujours, c'est les enfants qui sont déjà là, et qui voient arriver des enfants adoptés. Et ça, c'est quelque chose... moi, ça m'a sauté aux yeux, mais très tard, hein. Je me suis dit, mais c'est dingue, on croit toujours des adoptés, donc c'est très important d'en parler. Mais des fois, je me dis, ce qui serait aussi intéressant, c'est de parler des enfants qui ont vécu, enfin, les enfants biologiques qui ont vécu dans une famille où ils ont des enfants adoptés. Parce que le chemin, pour eux, il est quand même assez particulier, dans le sens où il y a quand même ce côté où voilà, ils ont leurs parents, et puis leurs parents adoptent tous nos enfants qui viennent d'ailleurs, et ils se demandent est-ce que mes parents m'aiment toujours. Enfin, j'imagine, hein, il doit y avoir beaucoup de questions. Et quand j'ai commencé à changer de perspective, c'est là que ça a été mieux, en me disant c'est pas une maladie, l'adoption. Je ne souffre pas d'adoption. C'est quelque chose qui m'est arrivé, mais maintenant... je peux en faire quelque chose de positif. J'ai beaucoup de gens à faire des choses positives à partir de leur vécu douloureux. Donc je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ça fait partie de moi, ça cohabite avec moi toujours, mais ça peut être vrai aussi, comme tu disais. Donc je crois que c'est à ce moment-là, mais comme je dis, je parle de ça maintenant, il y a des années que j'ai commencé. Mais il faut très longtemps, parce que avant, le problème, c'est qu'aussi, on doit comment... Pour résoudre ça, il faut aussi réussir à résoudre les problèmes de racisme, si c'est compliqué, parce qu'on a ça à gérer. Donc, il y a cette colère aussi qu'on doit gérer par rapport à ça. Et quand on commence à... Notre colère commence à diminuer par rapport au racisme ordinaire, comme on dit, ça va mieux et on réussit à plus se focaliser sur soi-même. Je ne sais pas si j'explique bien, mais... C'est une nécessité de commencer par là, par contre. C'est vrai que je me souviens, quand j'étais jeune, je réagissais très mal au racisme, parce que, enfin, ce qui est normal. Et je pense que maintenant, c'est pas que maintenant, j'y réagis mieux. Mais... sais pas comment dire ça, même si évidemment c'est pas quelque chose de normal, le racisme c'est quelque chose qu'on sait, voilà, il y aura toujours, ça en fait, mais j'ai envie de dire, bah, toute personne qui sort de la norme, qui est gros, ou bien qui est roux par exemple, on va dire ça comme ça pour un exemple, ou qui est petit, ou, il y aura toujours une stigmatisation, donc après quand on se dit que ça fait partie d'une parmi les autres, je crois que les choses vont mieux à ce moment donné, à ce moment-là, donc personnellement c'est ça.
Après, moi, je suis pour ne pas dire que c'est comme ça et que c'est une fatalité. Que,
non, c'est sûr. Il faut que, ça, je suis d'accord.
Là, et que c'est pas OK. Parce que, enfin, voilà, il y a aussi, de par nos histoires, ça raconte quelque chose, le fait d'être adopté en Belgique. Enfin, voilà, ça raconte aussi beaucoup de choses. Et après, comment aussi se dire... il faut que ces questions-là soient... Enfin, voilà, il y a... Enfin, je veux dire, la discrimination, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas être toléré. Et de par ça, pour moi, c'est commencer à investir, en fait, que ces questions investissent plusieurs espaces, que ce soit dans les programmes scolaires, que ce soit une représentation beaucoup plus large dans tous les secteurs, et que ce soit aussi que ce soit sujet, mais comment on en fait sujet en fait, parce que l'idée c'est pas que ce soit de la théorie, c'est comment on investit l'espace en disant ben voilà, et on se responsabilise, on s'auto-responsabilise ensemble, mais
je crois que ce que je voulais dire, c'est que on va pas mieux en banalisant, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que on y travaille mieux quand on a attrapé un certain détachement, je sais pas si c'est le bon mot. Maintenant, je me rends compte que je sais mieux faire face au racisme parce que je suis détaché et que je prends moi les choses de manière personnelle. Ça a commencé par là. Et donc, du coup, je considère qu'en guillemets, je combats mieux le racisme. Chose qu'avant, je n'étais pas capable de combattre parce que je me focalisais sur moi-même et je me victimisais. Je pense que c'est peut-être ça plus. Alors que maintenant, je pense que c'est un refus en fait. Je refuse d'être victime de racisme. Et donc, s'il y a des situations de racisme, je pense que j'ai une manière d'y répondre qui correspond mieux à ce que je veux maintenant par rapport à avant. Donc, je pense que... au fond de mon parcours, même au fond, une réponse au racisme d'une certaine manière, je me suis déjà dit. Et donc, c'est vrai que souvent, quand je me présente quelque part et que j'explique un peu ce que j'ai fait au bazar, ils disent toujours « Ah, on va quand même ». Mais donc, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça, se créer des mécanismes, des outils de défense, mais comment aussi ces outils de défense peuvent être collectés. On ne devrait pas continuer en fait à créer ces outils de défense là et voilà, mais bon, mais moi je crois avec ce travail hein, j'y crois pleinement hein. Et du coup tu y allais en, parce que là moi je sais aussi que quand j'ai commencé en 2018 à me dire ben j'y vais, c'était pour rencontrer cette terre, la colline, tout ça, mais j'avais pas la donnée de cette famille biologique, et que du coup il y a tout cet aspect aussi émotionnel, même si là je suis en contact avec elle par exemple, et le frère non, parce que il a pas de moyen de communication, mais je communique avec elle, c'est franchement, je culpabilise beaucoup de ça parce qu'elle m'écrit. Et moi, je suis arrivée à un stade où je ne sais même plus répondre. Voilà. Mais en même temps, je me dis, Conso, tu ne peux pas culpabiliser de ça parce que, en fait, c'est juste que je ne sais pas quoi lui dire, en fait. Enfin, et ça reste un fantôme parce que je ne l'ai pas vu. Et il y a quelque chose comme ça pour moi. Donc, cette nécessité d'y aller, c'est aussi... ces gens existent vraiment. Mais bon, ça fait 2 ans que je le sais. Il faut que j'y aille pour qu'ils existent vraiment. Et peut-être que ça sera à ce moment-là que je pourrai entretenir quelque chose. À la différence, eux, ils me cherchent depuis tellement des années que moi, c'est juste, c'est mort redeviennent, enfin, sont vivants, quoi.
C'est ça.
Et donc ça c'est fou. Et que, du coup, il y a ces deux, il y a l'événement de la Terre et l'événement émotionnel, ouais, de rencontrer ces gens qui te ressemblent, hein, finalement. Voilà. Et est-ce que toi, tu t'es parti en connaissant, enfin, en sachant que t'allais peut-être rencontrer des gens, et ou...
C'est-à-dire que pour moi, je dis toujours que c'était plus simple, c'est que je n'avais pas de recherche à faire. Moi, la recherche est impossible. Je veux dire, je n'ai pas de point de référence pour pouvoir commencer à chercher. Donc, voilà, je savais que j'allais, comme je dis, j'ai vraiment pu aller comme ça, genre avec mon sac à dos, et sans rechercher, parce qu'au fond, c'est aussi faire le deuil que je ne pourrais de toute façon jamais retrouver. Parce que c'est peut-être ça qui est particulier, c'est que voilà, moi, je sais que quoi qu'il arrive, c'est pas possible, parce que je veux dire, bon, à partir de mon monde, c'est pas possible non plus. Ouais. Et, voilà, je n'ai pas, j'ai pas de poids, donc ça, voilà, ça, maintenant, j'ai accepté, et ça continuera. Donc oui, moi je suis parti comme ça, vraiment genre pour voir le pays et les gens. C'était vraiment ça, en fait. Et
voir les gens, des gens qui... Tu me dis, t'as... Tout le monde, enfin, je viens de là.
Voilà, c'est ça. Vraiment se dire, en fait, je viens réellement de là. Parce qu'au fond, il y a un moment donné, on se demande est-ce qu'on vient réellement de là. Parce que tous les jours, ouais, les gens me renvoient qu'on ne vient pas d'ici.
Ouais.
Et à un moment donné, on se dit, bah, est-ce que je viens de là? Et c'est ça qui est particulier, c'est que quand on arrive, moi pour mon expérience, c'est que dès qu'on arrive sur le sol, on se dit, voyons, je viens de là. C'est évident. On le sent vraiment. On se dit, bah, en fait, je viens de là. Parce que si tout simplement, parce que tout d'un coup, enfin, on rencontre plein de gens dans la rue qui nous ressemblent, on a la tête du pays. Et ça, c'est particulier. Et ça, c'est quelque chose de... C'est quand j'explique ça après ici aux gens, bah, c'est ce qu'eux vivent tous les jours. Ah, je veux dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que le retour est très difficile, par contre, après. Parce que quand on vit... Moi, je suis resté 2 semaines pour plein d'aspects. Hein. Et des fois, les aspects se déclenchent plus tard, hein, genre 1 ou 2 ans plus tard.
Ouais, on m'a déjà prévenu de ça.
Parce que quand on revient ici, on se rend compte à quel point tous les jours on fait l'effort de faire abstraction du regard des gens. C'est ça qui est dingue. Et moi, honnêtement, quand je suis revenu, dans 2-3 semaines, ça allait pas. J'étais vraiment en colère contre le regard des gens. Je me disais, mais qu'est-ce que vous avez? Et j'avais oublié cette gymnastique que je fais tous les jours, en fait, que je ne me rends pas compte. Cette intégration.
C'est fou, hein.
Ouais, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable, c'est vrai, d'être. Je ne sais pas dire autrement que d'être avec ses semblables, on va dire ça comme ça, en tout cas au moins physiquement, et de même se dire, bah oui, la forme de tête, ça me ressemble, même physiquement, ça me ressemble, et parce que voilà, ici, ce sera très rare, quoi, donc oui, ça fait beaucoup de bien, ça.
Et où tu as, du coup, la sensation comme ça d'être dans un apaisement et sans devoir jouer ou être,
bah, enfin, maintenant, ça... Comment? Oui et non, parce que j'ai beau avoir la tête du pays, ben voilà, j'ai vécu en Europe pendant des années, donc... parce qu'à un moment donné, il y a un moment, je me disais, ah, peut-être que je vais revenir réhabiter ici, et après mes 2 semaines, je me dis, je ne serai pas, en fait, parce que ben, je suis ni d'ici, ni de là-bas. Au final, c'est ça qui est un peu dommage. Mais maintenant, ce que j'ai vraiment trouvé là-bas, et ce qui m'a vraiment frappé, je pense, et c'est ça que je cherche depuis des années, je pense, c'est que quelqu'un... entendre mon histoire et se disent, ah, je suis vraiment désolé. Parce que j'expliquais, alors qu'eux ont vécu des génocides, moi j'ai une certaine culpabilité, je me suis pas quand j'étais là en me disant, mais moi je suis parti avant 1994. Et lui aussi, évidemment, il y a déjà la guerre civile, mais je suis parti avant vraiment l'explosion. Et genre, au fond, quand j'en parlais, je m'en voulais de me dire, mais moi j'étais sauvé et je suis parti. Mais malgré ça, quand je leur expliquais, voilà, moi je suis plus venu ici depuis 28 ans, ils étaient tous très tristes et je sentais cette empathie qu'on peut avoir que si on a vécu certaines choses dans ce pays-là ou un autre. Et donc, c'est particulier, parce que c'est la première fois que une de mes attentes était rencontrée, on va dire ça comme ça, par rapport au fait de vraiment comprendre, on va dire, ce que j'ai pu vivre. Parce que c'est normal qu'ici, même mes parents adoptifs, je peux dire, ils peuvent faire tout l'effort qu'ils veulent, ils ne seraient pas, c'est normal. Et ça m'a vraiment beaucoup apaisé de me dire. Et ça m'a même choqué au début, je me disais, mais comment ils peuvent être désolés pour moi alors qu'ils ont vécu bien pire, je considérais. Et ça, c'était vraiment touchant. À chaque fois, je les voyais si je racontais un peu mon histoire, ben voilà, je suis parti il y a longtemps, et là je reviens, et ils disent, c'est la première fois que tu reviens. Et ils me disaient toujours, je dis, ouais, ouais. Donc, ils étaient toujours très, très, très touchés par ça.
Mais est-ce que c'est parce qu'ils se disent pas, t'es un enfant parti, quoi, et que du coup, tu.
Oui,
t'es dit, mais tu as. tu as raté aussi toutes ces belles... Enfin,
ouais.
Tu es parti de ton pays et j'en suis désolée. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ça,
mais aussi pour le fait que je n'avais pas de parents pour eux aussi. Parce qu'ils me disaient, t'as de la famille ici. Je dis non, moi j'ai pas de famille, je n'en sais rien en tout cas. Et retrouver, je ne serais de toute façon pas. Et ça les mettait vraiment dans une tristesse vraiment très visible, alors que bah, la plupart, leur famille avait été décimée.
Ouais.
Donc c'était vraiment particulier. C'est là que j'ai compris que cette attente n'aurait pas pu être rencontrée avant. De se sentir compris, on était comme ça, par rapport à ça.
Et du coup, si tu devais mettre une sensation et tout, tu avais l'impression d'être à une place assez chouette. Enfin, assez chouette, je sais pas, mais est-ce que tu. Comment tu te sentais autour de ces gens, avec ces gens
Comme je le dis, je crois que j'étais toujours pareil, je me sentais de là-bas. Je sentais vraiment quand j'étais avec les gens, simplement le fait de mettre la télé, je me suis dit que je suis d'ici. Et ça, c'est quelque chose qui. Donc j'avais besoin aussi de me dire je suis vraiment de là-bas. Et après, avec les gens, il y avait une certaine connexion, mais ça avait ses limites parce que, comme je dis, je suis resté tellement longtemps hors du pays que maintenant, c'est vrai que. Ma mémoire traumatique a pu rencontrer les gens, parce que quoi qu'il arrive, on vit avec ça. Parce que je me souviens, j'ai vu des émissions là-dessus, comme quoi on héritait, malheureusement ou heureusement, ça dépend des fois, de la mémoire des parents. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours senti en moi, et quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, c'est tellement évident. Et donc, le fait de retourner au pays, c'était confronter cette mémoire traumatique. Maintenant, j'ai même pu retrouver l'orphelinat où je viens. Et ça, c'est particulier parce que je raconte toujours comme ça et en général, on ne croit pas, c'est ça qui est rigolo. Et j'ai toujours, moi, quand je suis arrivé, je connaissais juste le nom de l'église qui était sûrement pas loin de l'orphelinat, mais je ne savais pas où il était. Mais je l'ai retrouvé moi-même comme ça. Parce qu'il y a certaines choses qui restent, certains chemins qui restent, parce que le chemin entre l'église et l'orphelinat, bah, c'est quelque chose. Et quand je l'ai vu, il y a toute une partie qui était devenue un endroit où. Pour les personnes handicapées, et alors on m'a dit, quand je suis arrivé, je me suis dit, ça c'est pas vraiment ça, on m'a dit, oui, mais ah oui, l'ancienne partie du orphelinat, c'est là-bas, et quand je suis revenu, bah voilà, et je me dis, c'était pas des rêves, c'était vraiment vrai, c'était des vrais souvenirs. Bah, après, je me demande comment j'ai survécu, c'est vraiment ça que je me suis dit, quand j'ai vu l'orphelinat, je me dis, bah, c'est quand même dingue, en fait, que je comprends mieux pourquoi mon tempérament est un peu résilient, je veux dire, parce que je me dis qu'un enfant aussi jeune survit là, je suis vivre dans ces conditions-là.
Et en fait c'est ça, d'où la nécessité peut-être qu'à un moment il faut aller sur les lieux,
c'est ça.
Pour faire qu'un quoi,
voilà, c'est ça.
Et se rendre compte d'une réalité passée et d'une réalité qui t'habite et présente quoi, c'est
Maintenant, pour expliquer un peu la suite, pendant les deux semaines, ça s'est bien passé. J'ai vu un peu vraiment, j'ai vu tout ce que je voulais. Enfin, j'ai vu tout type de personnes, je veux dire, de toutes les classes sociales en plus. C'est vraiment intéressant, quoi, parce que j'ai vu vraiment les gens très pauvres, comme les gens très aisés, on va dire ça comme ça. Donc, parce que j'ai même été invité à une fête aussi. Et donc, j'ai vraiment été un peu partout parce que j'étais là, je me promenais dans la rue, je rencontrais des gens, je parlais avec, et puis voilà. Et par ma soeur aussi, j'ai rencontré d'autres personnes qui, eux, justement, étaient bien plus aisées. Donc, ce qui peut paraître anecdotique, c'est que d'entrée de jeu, je m'étais dit, je ne prendrai presque pas de photos. Et donc, j'ai presque pas de photos parce que pour moi, je n'étais pas un touriste. Je ne voulais pas y aller en touriste, je voulais aller vraiment en ressortir les choses et en disant, voilà, j'ai quelques photos, mais vraiment presque rien. Mais après, c'est l'après en fait. C'est l'après qui est compliqué, je trouve. C'est pas y aller, enfin y aller, je trouve, j'ai tenu des préparations, mais l'après, quand on revient, on ne sent pas ce que ça a eu comme effet sur nous.
C'est
pas,
ça.
Pas tout de suite.
Bah en fait, t'es le pendant, enfin t'es à l'intérieur, donc voilà. Mm-hmm. Et c'est après, avec la distance, où tu te dis, ah, j'ai vraiment vécu ça, c'est ça.
Parce que l'après, et c'est là que je me dis, encore bien, je crois que je me suis dit, encore bien que j'étais préparé à aller, parce que. L'après aurait été vraiment destructeur si j'étais pas préparé. Parce que l'après nous fait vraiment voir les choses de manière plus radicale, plus dure par rapport à Mais je vais dire ça comme ça, blanc, noir. Quand je suis revenu, j'ai commencé à développer quelque chose, une colère envers les personnes blanches, c'est comme ça, mais une séparation plus nette. Chose que je n'étais jamais autorisée jusque-là.
Chose que tu ne ressentais pas, enfin que tu nommais pas ou que tu ne ressentais pas.
Que je ne nommais pas parce que je ne savais pas quoi en faire, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est ça.
Mmh. Et après, il m'a fallu du temps pour rééquilibrer parce que c'était un peu excessif au début quand je suis revenu. Allez, j'ai commencé à sortir après. Enfin, je m'en suis rendu compte après un an ou deux. Je m'en suis rendu compte, je me suis dit, tiens, je suis vraiment très dur par rapport à cette séparation blanc-noir et tout ça. Et puis en me disant, mais tiens, je viens d'un pays où il y a eu un génocide, mais paradoxalement, je suis en Belgique. Et j'ai dit, mais il y avait quelque chose de très complexe. Et plus la culpabilité en me disant, mais, et ça, j'ai dit quand je suis revenu en me disant, mais. Je les ai abandonnés, en fait. Moi, je suis parti, je suis sauvé, j'ai abandonné tous ceux de l'orphelinat, qui ont beaucoup n'ont pas survécu dans l'orphelinat, je sais, mais on m'a pas expliqué. Donc, il y a tout ça à gérer en revenant. Donc, ça, c'était pas facile. Donc, il y a beaucoup de positifs, évidemment, mais après, il faut quand même assez bien de temps pour rééquilibrer, parce que c'est un retour. Ouais.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu prépares, mais tu sais même pas ce que tu prépares. Enfin, ouais, moi, je suis dans un truc où je sais pas ce que je prépare, en vrai. Ouais. Je prépare juste ma tête à me créer un petit kit de survie avec ma psy si jamais, enfin voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il va me faire, mais je ne sais pas à quoi préparer. Après on part avec Annabelle qui va nous faire un programme et tout ça, mais je ne connais rien. Après c'est ça, et je crois que c'est ça le plus complexe, c'est l'aventure commence après. Par rapport à de me dire ça fait 26 ans que je n'ai pas vu tout ça, ça a changé, c'est plus le Burundi d'il y a 26 ans, mais de me dire, je sais que je vais vivre des choses que je ne connais pas ou que je ne connais plus en tout cas, et que et ça, je n'aurai pas de préparation par rapport à ça.
Oui, pour les sensations que tu vas retrouver.
Oui, et puis surtout, j'étais plus âgée que toi aussi quand j'ai quitté ça, enfin quand j'ai quitté le Burundi et mon pays, et... Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, en fait. Mmh. Et ça, oui, la préparation d'après...
On ne sait pas vraiment, c'est pour ça. C'est parce que je parle de préparation, mais au fond, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était vraiment indirect, parce qu'il va se préparer vraiment, on ne saurait pas. Se préparer, j'ai envie de dire, c'est tout seulement pour aller vers soi-même.
C'est ça.
C'est ça, la préparation.
C'est ça. Et la vigilance du retour, c'est juste dire aussi, c'est... ça sera aussi un choc traumatique aussi qui va exister, et se dire aussi c'est quoi le cadre de sécurité qui existe aussi pour se dire mais en fait ok, il y a ça avant, il y a ça pendant, et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, mais que ce ne sera plus de la théorie, mais après ça en vaut la peine, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, c'est sûr. Maintenant, c'est que toi, t'as la particularité que tu vas retrouver des gens. Moi, je n'avais pas ça. Donc, c'était un élément, argument en moi à travailler. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que moi, j'allais vraiment tout seul sans... Voilà. Avec peu d'attente, on va dire ça comme ça. C'était ça qui était un peu plus simple. J'avais pas vraiment d'attente. Donc, quand j'y étais, j'ai fait les choses comme ça. Et après, j'y étais. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu de choc quand je suis arrivé. Honnêtement, j'ai pas eu de choc sur le territoire et tout ça, parce que c'est vrai que peut-être en moi c'était déjà assez évolué par rapport à ça. Enfin, peut-être lié au fait que j'avais peu d'attente aussi, mais j'ai eu aucun choc, honnêtement. Ouais. Pourtant, je croyais pendant tout le temps que j'étais dans l'avion, j'étais un petit peu tendu, mais ça s'est vraiment dépassé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas du tout de mon trajet, allez, on va dire ça comme ça, vers la Belgique. J'ai des souvenirs avant.
Ouais.
Mais j'ai pas de souvenir du tout du voyage, en fait, de la translation, je dis toujours comme ça à ce moment-là. Parce que je pense que ça a dû être tellement violent que ça c'est totalement.
Bien sûr.
Et ça, j'ai pas accès, peut-être que j'aurais jamais accès à ce
moment-là. Ouais. Et puis, il y a une force incroyable que ce qui se passe là-dedans, de comment tu protèges les petits qu'on est. Mais après, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça dans ce voyage qui c'est plus du tout aussi confortable. Enfin, ça n'a jamais été confortable de parler de tout ça, hein. mais je veux dire, je disais en 2018 c'était juste le pays, quoi. Là, cette donnée familiale, moi, c'est je crois que c'est la chose qui me qui me fait le plus. Enfin, oui.
C'est peut-être la notion de sentiment d'appartenance aussi. Parce que moi, j'ai toujours. Bah. Je n'ai pas de sentiment d'appartenance, j'ai toujours été. Et quand j'y suis retourné, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, le sentiment d'appartenance. Parce que jusque-là, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai toujours dit, moi, je suis. C'est un peu triste, hein, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours dit, moi, je vais de nulle part. Je dis toujours à tout le monde, je suis
d'accord.
C'est pas très clair. Et donc, pas de sentiment d'appartenance. Mm. Je dirais pas que maintenant, j'en ai un, mais en tout cas, c'est une chose que je peux mieux comprendre.
Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord, il y a quelque chose comme ça. Bon, moi maintenant, parce que j'ai un enfant, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Je sais pas où c'est chez moi, en fait. Mm-hmm. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je trouverai où c'est chez moi, mais que peut-être... Enfin, peut-être que c'est aussi en faisant... En fait, il y a ce truc retour aux sources, quoi. Mm-hmm. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a cet avant et maintenant, et il y a... Enfin... Je dois faire ça. J'ai l'impression que je ne peux pas savoir c'est quoi mon futur si je ne le fais pas. En tout cas, c'est quelque chose que je dois faire pour trouver quand même une cohabitation, quoi.
Un équilibre,
oui, c'est ça. Mais après, moi, je sais que ça sera de toutes les manières mieux que de ne pas y aller. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très très important et que pour moi c'est que lumière si j'y vais. Ça sera dur certainement parce que effectivement en étant allé au Rwanda, on essaie de nous raconter un peu que le Burundi c'est pas le même délire et que c'est compliqué.
La particularité, on peut aller comme ça. En termes de sécurité, il n'y a aucun problème. Je sais pas que le Burundi c'est autre chose. C'est vraiment pareil.
Et que du coup, il y a aussi être confronté à une réalité qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vue. Et se dire aussi, je connais les conditions dans lesquelles vit ma famille. Et ces étrangers, finalement, que je ne connais pas, mais que eux, je me connaisse à fond, quoi.
C'est-à-dire qu'il connaissait enfant maintenant, toute l'évolution, c'est autre chose. Donc, je crois qu'ils ne te connaissent plus de toute façon.
Ah non, mais.
Voilà.
Non, mais je crois qu'ils aiment bien. Parce que ça se rattache aussi à quelque chose de palpable pour eux. De se dire, mais oui, tu es resté aussi dans un souvenir figé. Mais voilà, quoi. Et est-ce que. T'appelles ça un retour, toi, ce voyage que tu as fait au Rwanda, où tu t'es dit, j'y vais, c'est un aller.
Un aller,
tu... Oui, c'est un aller et pas un retour. Par exemple, moi, j'appelle ça un retour parce que ce départ a été forcé et imposé. Et j'avais presque 7 ans. Et que donc, pour moi, c'est vraiment un retour, en fait. J'ai connu ce pays pendant cette année de ma vie. Et c'est vraiment un retour. Après, quand je rencontre des adoptés, il y en a qui disent, moi, c'est plutôt un aller. Parce que j'avais quelques mois. D'autres, j'ai des souvenirs. Donc, c'est plutôt un retour. C'est-à-dire
pour moi, peut-être plus froidement, c'était un peu l'apothéose du processus dans lequel j'étais. Quand j'étais, c'était vraiment, j'avais travaillé sur moi-même, on va dire ça comme ça, pendant tant d'années. Et le fait d'aller au Rwanda, c'était se dire, maintenant je suis arrivé au stade où je suis même capable de retourner dans mon pays. Et c'était, pour moi, ça marquait la fin de la recherche identitaire douloureuse, je veux dire ça comme ça. Le fait d'y aller. Parce que, après, je savais qu'il y allait avoir un après, et je m'étais dit après ça, c'est pas que je me suis dit je dois m'occuper de moi, mais j'ai un côté plus serein où je me suis dit, comme je dis tantôt, les choses vont continuer. Maintenant, j'ai les clés. Et je m'étais dit, le fait d'aller au Rwanda, c'était vraiment marqué. J'ai dû pendant 7 ans être au fond. Pas le bon terme, mais très narcissique, on va dire ça comme ça. Vraiment me concentrer sur moi-même, essayer de comprendre qui j'étais, ces choses-là. Et donc, un peu et mettre les gens en dehors, voilà, ça comme ça. Donc pendant 7 ans, j'ai eu besoin vraiment, c'était, j'appelle ça cette phase narcissique, même si je trouve que c'est pas le bon mot, parce qu'en fait, ça c'est pas bon, moi je sais bien, mais cette phase où, où je vraiment occupais, me tourner autour et dans cette quête identitaire. Mais après le Rwanda, j'ai eu ce côté vraiment, c'était déjà un peu avant, sinon je trouve que ça n'est pas au moment, ce côté un peu plus zen en me disant, bah voilà, j'ai mon bagage, j'ai mon passé. Et à partir de maintenant, c'est... je ne trouve pas des beaux termes, mais c'est comme si c'était un entretien que je vais faire de toute façon automatiquement. Je ne dois plus le faire de façon aussi concentrée, on va dire comme ça.
C'est ça, et avec moins de douleur,
oui, voilà.
Quasiment, voire pas de douleur.
Pas de douleur, non, ça je n'y crois pas trop, mais c'est quelque chose de naturel, que je sais comment faire, on va dire ça comme ça. Alors que j'ai dû apprendre avant.
Mais est-ce que du coup, est-ce que tu ressens que tu es arrivé à cette cohabitation des deux identités, comme on le disait, avec ce voyage, en tout cas, ça t'aide dans ce cheminement?
Moi, je pense. Je pense que j'ai été arrivé un peu avant de partir. C'est pour ça que j'ai parti relativement serein. Même si, comme je dis, l'année, pendant toute l'année où j'allais partir, c'était vraiment une année où c'était très bizarre. Je ne sais pas expliquer dans quel état j'étais, c'était très, très étrange, alors que... Voilà, j'avais mis déjà beaucoup de choses en place. Mais oui, après ça, à ce moment-là, je me suis dit, après un an ou deux, je me suis dit, voilà, les deux. Je pense qu'à partir de quand je me suis dit, j'aime bien donner des années en 2017, que j'étais vraiment quelqu'un d'heureux, sans raison, enfin, qu'on pourrait croire, c'est à ce moment-là que je pense que ça commence.
Ouais.
Vraiment. Et je me suis dit, voilà, je vais vraiment terminer cette partie-là de... La reconstruction active, j'ai toujours pendant autant d'années, ça a dû être une reconstruction vraiment active, vraiment je devais m'y tenir. Alors que maintenant, je suis capable de faire beaucoup d'autres choses maintenant. Parce que pendant toutes ces années-là, je veux dire, j'ai fait mon travail, mais je ne pouvais pas faire des choses vraiment. Par exemple, ici, cette année, il y a 2 ans maintenant, j'ai repris des études, je suis en train de réfléchir à me réorienter, toutes ces choses-là. Je pense que tout a repris maintenant, après 2019. Alors qu'avant, je repassais, j'étais vraiment focalisé sur.
Oui, et puis ça demande une telle disponibilité et une telle énergie. Ça coûte quoi? Ça
voilà,
coûte
ça.
Tellement que tu fais, parce que tu te dis, juste ça, c'est tellement énorme quoi. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens toujours heureux?
Oui, mais je sais que je le serai toujours, parce que je crois que depuis un certain temps, j'ai compris la direction dans laquelle je vais. Et je compris que ça a un sens, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, par toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et je les ai comprises, toutes ces étapes. Donc, du coup, je serai toujours heureux parce que je ne pense pas qu'il y ait de retour possible. Parce que, évidemment, j'aurai des choses à gérer, des deuils à gérer, toutes ces choses-là, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose de comme je dis, d'autonome maintenant que j'ai installé au fil des années. Et oui, je le serai toujours. Peu importe les événements. Parce que je sais que maintenant, j'ai les clés pour. En fait, je crois que j'ai appris à savoir faire le deuil pendant toutes ces années-là. Parce que je dis toujours, j'ai un gros problème, j'ai une incapacité à faire le deuil. C'est très compliqué. Alors que maintenant, voilà, c'est jamais agréable, c'est jamais facile, mais je sais mieux le faire qu'avant. Et donc, c'est ça, je pense, qui rend heureux de savoir faire le deuil des événements qu'on vit. Mais surtout, vraiment, comme je dis, je ne sais pas l'expliquer mieux que ça, c'est que. Ça a un sens maintenant, ce que je fais. Et je suis moins tracassé des décisions que je prends, parce qu'avant, je prenais des décisions, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas accès à la raison. Et puis après coup, je me dis, oui, ça a un sens, je comprends. Mais c'est que seulement maintenant, depuis quelques années, je me dis, voilà, ce que je ferai ira toujours vers une certaine logique, on va dire ça comme ça. Donc oui, je crois que c'est pour ça que je suis heureux. Ouais. Mmh. Je suis moins tracassé, en fait.
Mais la réparation, là, ça fonctionne alors, là.
Il y a ça, et aussi de se dire que on a la personne qu'on... Allez, j'ai l'impression que je suis la personne que je veux être. Et ça, c'est particulier. Ouais. Et ça, je dis, ça ne fait que 2-3 ans que je me suis rendu ça. Donc, je ne serai pas... Genre, la jalousie, souvent, je ne la comprends même pas, parce que je me dis, mais je ne dois pas être quelqu'un d'autre, je ne dois pas... Parce que ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Je dis toujours, si j'essaie que je vais faire ça... Je sais quoi qu'il arrive, je condamne, moi, pour le faire. Mmh. Avec ce côté un peu résilient, avec ce côté de survie aussi, dès que je me mets dans un projet, donc ce n'est plus vraiment à craindre.
Et en fait, c'est ça que tu dis, c'est que tu... Tu décides de... C'est toi qui décides de ta vie, en fait.
Voilà, c'est ça.
Et qu'elle n'est plus dirigée ou décidée par d'autres. Et que...
Ou, je veux dire, ma tristesse dirige moi ma vie. C'est ça, en fait. Parce que j'accepte cette tristesse en moi. Et j'accepte de vivre avec ça. Donc, c'est ça qui est particulier. Je crois qu'avant, je vivais avec cette tristesse et je ne savais pas quoi en faire. Elle prenait beaucoup de place, beaucoup de place. Et... j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, donc, parce que est-ce qu'elle est moindre par rapport à avant, ça je ne sais pas. Ça je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, elle a accueilli. Je crois que j'ai arrêté de résister en fait. Donc, comme je disais tantôt, j'ai accepté que les éléments peuvent me traverser. Et j'ai compris que c'est la meilleure manière de faire que résister, bah, quoi qu'il arrive, ça va quand même revenir. Donc maintenant que je me laisse traverser par les éléments et que j'accepte la sensibilité que j'ai aussi, parce que j'ai envie de dire, parce que j'ai 25 ans, j'étais très, très insensible et tout d'un coup j'ai senti que je ressentais mieux les choses, je ressens très bien les gens et je sais en faire quelque chose de positif, c'est ça aussi.
J'aimerais bien tendre vers ça et je sens que je le suis vraiment mais en tout cas c'est un bel exemple en tout cas et moi ça me donne vraiment envie de faire ça.
Mais je pense que ça se fait malgré nous, hein. Donc,
oui, mais voilà. Mais je y a entre ce que je ressens et la nécessité et le besoin, voilà, et il y a aussi tout ce truc de rencontrer des personnes et je crois que tu es aussi une des personnes qui a fait un retour avec un tel recul et un tel apaisement qui moi me fait du bien. En fait, et d'où la question de des rencontres que je fais avec d'autres adoptés, c'est ça donne du sens. Te rencontrer, ça me donne vraiment du sens à dire mes consos. Un jour, tu ressentiras ça, en fait. Voilà. Donc c'est que positif et merci pour ça, quoi.